d'être avec nous sur Radio France Internationale, 8h30 à Paris. L'heure d'un nouveau journal consacré à l'actualité africaine avec vous, Sébastien Duhamel.
Et à la une ce matin, cette nouvelle avancée des rebelles du M23 dans l'est de la RDC. Ils ont pris le contrôle hier de la localité de Katale au nord Kivu, une localité stratégique sur la route de Massissi. 400 détenus qui bénéficient d'une grâce présidentielle en Centrafrique, une grâce annoncée par Faustin Archange Touadéra dans son discours pour la nouvelle année. Après le rapprochement entre l'Éthiopie et la Somalie, l'Éthiopie souhaite à présent s'impliquer dans l'AUSOM, cette nouvelle force de l'Union africaine déployée en Somalie contre les Chebab. Mogadiscio dit examiner cette proposition. Une première victoire au Congo-Brazzaville pour les riverains de l'usine Metsa Congo à Pointe-Noire, eux qui dénonçaient la pollution industrielle liée à cette activité depuis des années. Eh bien, le démantèlement de l'usine est presque terminé désormais. Et puis cette polémique au Tchad, les prestataires de services de l'État dénoncent des impayés. Ils réclament leur dû. La situation s'est à nouveau dégradée depuis la rencontre avortée entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Et à l'issue d'intenses combats, les rebelles du M23, épaulés par le Rwanda, revendiquent donc un nouveau fait d'armes dans l'est de la RDC. Ils se sont emparés hier de Katale, une localité qui est le dernier verrou vers la ville de Massissi. Nous sommes ici à quelques 70 kilomètres à peine au sud du chef-lieu du Nord Kivu, Goma, où l'on retrouve Héritier Baraka.
La prise de cette localité stratégique a eu lieu en début d'après-midi, selon des sources locales et sécuritaires, après des jours de violents affrontements tout autour, entre d'un côté l'armée et ses alliés Wazalendo, et de l'autre côté les M23 soutenus par les Rwandais. Katale était jusque-là la principale place forte des FARDC, avant la ville de Massissi Centre, symbole administratif de la région. Une avancée des rebelles déplorée par Telesphore Mitondé, qui est rapportée de la société civile du territoire de Massissi.
L'ennemi vient en tout cas de de la cité de Katale, faisant ainsi plusieurs victimes parmi les civils, parce que plus d'une dizaine de civils blessés sont admis déjà à l'hôpital général de Massissi. On note les déplacements massifs des populations de plusieurs agglomérations.
Les responsables administratifs, Thierry Mohindo, précise que l'avancée des rebelles, accompagnée des détonations d'armes qui ont provoqué une panique générale dans la région, a provoqué un déplacement massif de la population. Le colonel Séraphin Sabimana, porte-parole de Wazalendo dans la région, assure que tout est mis en œuvre pour une riposte. Et pour l'instant, l'armée n'a pas encore réagi. D'autres combats étaient signalés ce matin sur l'axe Minova-Bweremana à une quarantaine de kilomètres de Goma. L'avancée des combattants du M23 intervient après la chute de l'agglomération de Kaniro et d'autres villages dans les mêmes territoires de Massissi. Héritier Baraka, Goma, RFI.
Une grâce présidentielle en Centrafrique, annoncée à l'occasion du discours et des vœux pour le passage à la nouvelle année. Elle concerne quelques 400 détenus de la prison centrale de Ngaragba dans la capitale Bangui. Alors, il ne s'agit pas ici d'un encouragement à l'impunité, a précisé le président Touadéra, mais d'une volonté correctionnelle, selon lui. Des libérations qui sont déjà effectives pour certains. Notre correspondant Rolf Steph Demialeu a pu y assister.
Dans la grande cour de la prison centrale de Ngaragba, les prisonniers sont alignés les uns à côté des autres. Souriant ou étonné, certains n'en reviennent pas. À l'appel de son nom, Bruno Kouzou, l'un des prisonniers, avance et récupère son certificat de libération.
J'ai fait seulement 5 mois ici. Mais vraiment, ce que j'ai vu ici, j'ai traversé l'enfer. Je vais rentrer dans la famille, voir mes enfants, voir ma femme. Je reprends ma vie à zéro. À mes frères qui sont encore dehors, vraiment, vous faites très attention à ce que vous faites. Je remercie beaucoup le président de la République pour sa merveille.
Chaque prisonnier libéré remet sa combinaison orange aux gardes pénitentiaires sous les applaudissements des proches rassemblés à l'entrée de la prison. Arnaud Dubaï Abazen, ministre de la Justice, explique les raisons de cette mesure de grâce.
Il s'agit d'une mesure de pardon que l'autorité, qui est le père de la nation, a bien voulu accorder à cette tranche de notre compatriote qui sont en conflit avec la loi. Le temps qu'ils sont passés en détention leur a permis de mesurer l'importance de la liberté, de mesurer la conséquence de leurs actes, qu'à la sortie de prison, ils vont redevenir des citoyens normaux pour permettre de vivre dans la société.
Des vagues de libération sont encore attendues dans les autres prisons de Bangui et celles des provinces. Rolf Steve Doumerle, Bangui, RFI.
C'était un des changements au 1er janvier en Somalie. L'AUSOM a remplacé l'ATMIS, nouvelle force de l'Union africaine pour lutter toujours contre les islamistes Chebab. Une nouvelle force, l'AUSOM, à laquelle L'Éthiopie aimerait bien contribuer aujourd'hui. Addis Abeba en a formulé le souhait à l'heure où les deux pays affichent leur rapprochement après une brouille autour de la question du Somaliland notamment. Début décembre, un communiqué commun annonçait la fin des divergences. Ce jeudi, la ministre éthiopienne de la Défense était en visite à Mogadiscio. En face, la Somalie dit maintenant vouloir examiner cette nouvelle proposition. Mais c'est en tout cas, on peut le dire, une étape supplémentaire dans le dialogue, Amélie Tullet.
L'Éthiopie parle donc de son souhait de participer à l'AUSSOM, la mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine, qui doit remplacer ce mois de janvier l'ATMIS, la mission africaine de transition en Somalie. Le ministère éthiopien des Affaires étrangères déclare que l'Éthiopie et la Somalie ont convenu de collaborer sur ce sujet et de renforcer leurs relations bilatérales. De son côté, le ministère somalien des Affaires étrangères qualifie les discussions de haut niveau qui viennent d'avoir lieu d'étapes importantes vers la consolidation et la promotion de la stabilité régionale, mais aussi la réaffirmation du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République fédérale de Somalie. Il faut encore attendre pour connaître les effets concrets de ces déclarations. Elles interviennent après une année 2024 marquée par de fortes tensions entre les deux voisins, avec notamment un accord maritime conclu entre l'Éthiopie et la région séparatiste du Somaliland, puis la menace faite par Mogadiscio d'obliger les troupes éthiopiennes à se retirer du territoire somalien. Mogadiscio dit donc vouloir à présent examiner la proposition de Addis Abeba de fournir des troupes à la nouvelle force pour continuer la lutte contre les insurgés Chebab, actifs depuis plus de 15 ans et en guerre contre le gouvernement fédéral somalien.
Les explications d'Amélie Tullet. Au Niger, les militaires au pouvoir apportent des précisions sur la fermeture des services consulaires américains. Fermeture annoncée le 31 décembre par un communiqué de l'ambassade des États-Unis au Niger qui évoquait une fermeture temporaire, sans préciser de durée, sans donner d'explication. Eh bien, dans un communiqué, les autorités nigériennes démentent ici tout conflit diplomatique. Elles assurent que la décision a été prise par les États-Unis. Il s'agit, selon le Niger, d'une sanction disciplinaire qui a conduit au rapatriement précipité de la personne qui était chargée des affaires consulaires. Elle devrait être prochainement remplacée, lit-on. Le Niger, où Moussa Tchangari a été écroué hier après un mois de garde à vue. Il a été présenté devant le doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Niamey. Moussa Tchangari, cette figure de la société civile nigérienne, inquiété désormais pour 5 chefs d'accusation. 2 chefs se sont ajoutés hier, à savoir atteinte à la défense nationale et intelligence avec des puissances ennemies. Une première victoire pour les défenseurs de l'environnement au Congo-Brazzaville et une victoire surtout pour les riverains de ce qui était il y a peu encore une usine de recyclage de batteries de l'entreprise Metsa Congo à Pointe-Noire. Un site dénoncé depuis des années pour sa pollution aux métaux lourds et le risque que cela fait peser sur les locaux. Un site dont le démantèlement a commencé il y a 2 semaines. Sur place, les fours ont été démontés, la toiture enlevée. Ne reste plus que la charpente et un grand soulagement pour les riverains de l'usine réunis au sein d'un collectif dont Cyril Traoré Ndembi est le président. Il réagit justement ce matin sur RFI.
Nous sommes tellement heureux parce que tant qu'il y avait ces installations devant nous, malgré le fait qu'il y avait une lueur d'espoir, rien ne nous rassurait que cette usine pouvait définitivement fermer. Merci surtout aux autorités qui ont pris une décision courageuse. Enfin, ce n'est qu'une étape. À partir du moment où nous savons tous que les personnes vivant autour de l'usine sont contaminées au plomb, il faut une prise en charge, il faut décontaminer le secteur, mais aussi il faut réparer le préjudice. Il faut que le médecin, donc le pollueur, qu'il puisse payer le prix qu'il faut afin que nous puissions avoir droit à réparation.
Cyril Traoré Ndembi, président du collectif des riverains de l'usine Metsa Congo à Pointe-Noire, collectif qui enregistre donc une première victoire, je le disais, première, car une procédure est en cours devant la justice. Notons tout de même que le ministère de l'Environnement a demandé aux dirigeants de l'usine la prise en charge médicale des résidents et des anciens employés. Le ministère demande aussi un audit environnemental. Le ministère des Finances et du Budget du Tchad paye-t-il bien toutes ces factures? Eh bien, certains opérateurs économiques qui fournissent des prestations de services à l'État assurent que non. On parle ici de dettes intérieures, c'est un peu technique. Mais en somme, les entreprises qui travaillent pour l'État dénoncent leur non-paiement. Des accusations que conteste pourtant le gouvernement tchadien. N'Djamena, précision d'Olivier Monodi.
Les opérateurs économiques tchadiens veulent être payés. Ils assurent avoir financé à leurs frais la construction des établissements scolaires, sanitaires et administratifs, des fournitures de bureaux et autres services au gouvernement tchadien. Des services qu'ils estiment à plus de 1 000 milliards de francs CFA sur une période de 10 ans. Ouardougou Djimi Chété est le président du syndicat des opérateurs économiques.
C'est des choses qui existent sur le terrain, par exemple, de la construction des bâtiments et les réfections dans les provinces. Ce sont de l'argent qui ont été mobilisés par les opérateurs économiques. La dette qu'il a auditée en 2018, dans les 2 000 milliards, il a pu auditer celui-même qui a dit 800 milliards. Les 1 200 milliards restent à vérifier et valider. Si aujourd'hui il n'y a pas de dette à payer, il n'a qu'à faire face à nous.
Faux rétorque le ministre des Finances qui assure que toutes les dettes intérieures ont été réglées. Tahir Amit Nguilin, ministre d'État, ministre des Finances, l'a répété lors de la présentation de la loi des finances 2025 au Conseil de transition.
Tant qu'il y a une liquidation, on dépose le rapport général de la liquidation. La responsabilité aussi, c'est de protéger les ressources de l'État. Ils ont des factures, des chefs de quelques opposants, je ne sais pas. Nous ne sommes pas convaincus.
Le syndicat des opérateurs économiques demande aujourd'hui un dialogue direct avec le ministre des Finances pour situer les responsabilités. Il en appelle également au président Mamadou Tebi pour un dénouement rapide de cette crise. Olivier Monodi, N'Djamena, RFI.
Le Tchad, où se refermera ce soir la 6e édition du festival Dari, dans la capitale N'Djamena. Danse, chant, tradition culinaire, un festival qui fut un succès pour l'instant, on peut d'ores et déjà le dire, avec des dizaines de milliers de spectateurs qui ont fait le déplacement. 30 000 visiteurs rien que pour le soir du Nouvel An. Et puis, une autre fête en Afrique du Sud, la ville du Cap se prépare aujourd'hui pour son carnaval de début d'année. Le Twide Noéyar, soit le second Nouvel An qui est d'habitude célébré le 2 janvier. Cet héritage du temps de l'esclavage, puisqu'il s'agissait à l'époque du seul jour de repos pour les esclaves. La fête a été déplacée cette année au 4 janvier, afin de permettre aux communautés musulmanes de se concentrer sur la prière du vendredi. Merci d'écouter RFI. Restez avec nous, bien sûr, sur la Radio du Monde. Votre matinale continue et c'est avec Gaëtan Plenet.